dans cet épisode du balado compte complet.
Même si leur MPP+, surtout dans le cas de Guerrero, est positif, ça ne marchera pas. Là. C'est 3,69 là, ce lundi matin.
Là, je comprends. Je justement, Alain, pourquoi attendre que ces gars-là se réveillent? On a des matchs à jouer, on a des matchs à gagner, puis on en gagne, là, on gagne des séries.
Oui, oui.
Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on attend que quelqu'un débloque.
En jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, écoute, au cours des derniers jours, moi, il y a une série que j'ai voulu regarder de très, très près, opposant les Orioles de Baltimore aux Royals de Kansas City. Je voulais voir, les Royals, voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre une équipe comme les Orioles de Baltimore. Mais avant de parler des Royals, Marc, là, les Orioles, on s'est rendu compte que le talent déborde dans cette équipe-là. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé dans cette série. On le savait, sauf que ça m'a semblé encore plus évident face aux Royals.
Écoute, Alain, tu regardes la manière dont cette série-là s'est jouée. C'est vraiment exceptionnel de vous. Écoute, de 1 à 9, lorsqu'on fait un match avec les Braves, entre autres choses, on parle de cette profondeur de formation. Mais les Orioles de Baltimore, là, je regarde la façon dont les frappeurs 7, 8 et 9 ont frappé là, du côté des Orioles de Baltimore. Et ça serait probablement des frappeurs 3 et 4 dans bien des équipes. Oui. Ça vous donne une idée à quel point on est très solide. On est très jeune également. C'est ça la beauté des Orioles de Baltimore. C'est pas juste qu'on joue de la bonne balle. C'est que le potentiel est illimité, t'as l'impression. Et effectivement, tu sais, pour avoir frappé un gars qu'un gaucher comme Reagan, qui plusieurs pensent qu'il pourrait, tu sais, être parmi les récipiendaires du trophée Cy Young. C'est vraiment une équipe qui n'est pas encore partie. Jackson Holliday n'est pas parti encore. Les gens s'inquiètent un peu. Moi, je pense qu'il faut être encore patient. Ce gars-là va débloquer assurément dans un avenir assez rapproché. Mais moi, je suis bien impressionné. J'aime la façon dont c'est dirigé. Tu vois que ce sont de jeunes leaders. Évidemment, Rutschman fait partie de ce groupe-là. Oui. Belle équipe à avoir joué. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là.
Oui, écoute, au moment où on se parle, là, on s'est rapproché à un demi-match des Yankees de New York qui ont eu un très, très fort début de saison. J'ai l'impression que le train est parti là, à Baltimore.
Ben, tu sais, on découvre des joueurs. On parlait beaucoup, justement, de Rutschman, des Gunnar Anderson. Puis là, on découvre des Colton Cowser qui, ma foi, connaît un début de saison tout à fait exceptionnel, qui frappe d'ailleurs... T'sais, septième parfois dans le rôle offensif, Kerstad qui va très bien. Il y a des options au niveau des ligues mineures actuellement. Si jamais, Cedric Mullins a un lent début, mais soudainement, écoute, s'est mis à frapper un peu plus. Son jeu en défense est exceptionnel. Alors, il y a des belles choses là, qui se passent à Baltimore. Je vous dirais que c'est la raison pour laquelle j'ai en début de saison placé pour remporter la Série mondiale.
Oui. Le meilleur MPP, là, si on parle d'ordre des frappeurs, là, c'est le septième chez les Orioles, au-dessus de 900. Je pense que Cowser n'est pas étranger à ça. Chez les Royals, Marc, Bobby Witt est en train de transporter cette équipe-là. Puis là, je veux te parler justement d'un gars comme Witt, qui a signé un contrat à long terme. Il vient au bâton seulement une fois sur neuf. Il occupe une position clé quand même au poste d'arrêt-court. Est-ce qu'un gars comme ça peut être capable de dire, bon ben viens-t'en, suivez-moi, là, je vais vous amener là où on est supposé d'aller?
Oui, mais à une certaine limite. Tu l'as très bien dit, c'est une fois sur neuf. Il va au bâton aussi souvent que probablement ton huitième, neuvième frappeur, là, à la limite peut-être un peu plus, mais moi j'ai toujours en tête Mike Trout. T'sais, tu me poses la question, Mike Trout n'a pas réussi à amener les Angels là où il voulait amener. Puis pas parce que c'est un manque de talent, un manque d'effort ou un manque d'intensité ou un manque de leadership. Là. C'est juste qu'un joueur ne peut pas tout faire. Pendant une certaine période de temps, absolument. Tu peux traîner une équipe, mais tu ne peux pas demander à un joueur pendant 600 présences au bâton d'être toujours le meilleur et de traîner toujours cette équipe-là. Tu ne peux pas. C'est une combinaison de facteurs, surtout des saisons de 162 matchs. Il faut que lui influence les autres à embarquer. Et tu sais, dans un monde idéal, c'est que quand tu lui connais une baisse de régime, il y en a un autre qui est capable de prendre la relève pendant ce temps-là jusqu'à temps qu'on retrouve son synchronisme et que la chaîne continue, en fait, que le bâton continue à se passer à travers l'équipe pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui fasse le travail. Mais au baseball, tu peux pas utiliser un joueur, par exemple au hockey, tu peux mettre un bon joueur sur deux trios là, puis il va jouer là, pas mal plus que les autres. Son tour, ben il vient juste une fois sur neuf. Donc, c'est l'exemple à suivre, un leadership assurément. Il y a plein de belles choses qu'un joueur peut amener de positif et de créer de la belle énergie puis de créer une manière de jouer là, qui est l'excellence. Mais tu ne peux pas demander à un joueur de faire toute la différence dans une saison. Si un joueur qui pouvait peut-être le faire, ce serait Shohei Ohtani, s'il gagne tous ses départs lorsqu'il est lanceur, puis qu'il frappe 50 coups de circuit, là, tu vas dire, écoute, le gars transporte son équipe, mais c'est à peu près la seule exception.
Oui, écoute, Witt fait MPP au-dessus de 900. En fait, met la table à Salvador Perez, qui a une saison absolument extraordinaire, là. Son taux de but sur balle est un peu plus élevé que d'habitude, et ses points produits, ses coups de circuit, Marc, c'est toujours à des moments importants. Son MPP, près de 1000, c'est tout un début de saison, même si, il n'est pas plus rapide qu'il était. Mais, écoute, 22 points produits à ce stade-ci de la saison, je pense pas qu'il puisse faire ça très, très longtemps. Il y a quelques autres joueurs que j'aime beaucoup. Moi, Michael Garcia, je l'aime beaucoup, même si c'est pas un gros... ça va un peu moins bien dernièrement. Mais il y a quand même des joueurs intéressants dans cette équipe-là.
Ben, écoute, surtout qu'on a solidifié la rotation des partants avec quelques vétérans. Puis là, ça donne toujours l'espoir d'être dans les matchs. Puis dans l'espoir, évidemment, d'aller chercher le gros coup sûr là, lorsque ça compte. Moi, les Royals, honnêtement, ils me surprennent à ce début de saison. J'aime ce que je vois. La saison est longue. Il y a seulement un peu plus de 20 matchs de jouer, là. Mais je regarde ce qui se passe dans cette division-là, Alain. Les Twins qui sont pas partis, ça va être un petit peu plus difficile qu'anticiper. Est-ce que les Guardians peuvent tenir le coup en attaque? C'est très, très bien parti. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les Royals vont être là un petit bout de temps. Puis que si on crée justement dans cette équipe l'espèce de croyance qu'on peut y arriver, ça peut faire son bout de chemin, ça, dans une saison. Ouais. C'est pas impossible, Alain, cette année, qu'on voit en série d'après-saison des équipes se rendre en série avec 84-85 victoires. Je ne serais pas surpris de ça. Et peut-être que dans cette division-là, ce sera le cas. Alors, à ce moment-là, ça donne l'espoir à pas mal tout le monde.
Oui, mais c'est arrivé l'année passée, Marc, dans la Ligue nationale, les Marlins sont passés en jouant à peine pour 500. Donc, c'est pas farfelu de penser que ça pourrait arriver encore cette année.
Exact.
Bon, les Mets de New York, Marc, on ne s'attendait pas à grand-chose de cette équipe-là. Il y en a plusieurs qui étaient placés troisième, un peu par défaut parce qu'ils jouent dans la même section que Washington et Miami. Ils sont troisième actuellement, mais en jouant beaucoup mieux que prévu.
C'est 8 victoires au cours des 10 derniers matchs pour les Mets de New York. Après un très lent début de saison, les premières semaines, ça a été très difficile. Je sais pas, tu sais, les attentes étaient pas élevées. Rappelle-toi les deux, trois dernières années où les attentes étaient élevées, puis là, on s'est écroulé. Il y a toujours, tu le sais, Alain, les Mets, il y a toujours une controverse, il y a toujours un incident qui arrive avec cette équipe-là. Peut-être que cette année, on se dit, on y croit pas, puis soudainement, on va commencer à jouer de la bonne balle. Je ne le sais pas, mais c'est encourageant. Moi, honnêtement, après la première semaine, je me disais, ouf, ça va être une saison qui est très, très longue. Mais là, on s'est replacé. C'est fragile, par contre. On va se dire, là, c'est quand même assez fragile là, comme scénario. Mais les Mets, là, ça laisse personne indifférent, je trouve. C'est une équipe qui laisse personne indifférent. Ils font toujours parler d'eux. Que ce soit en bien ou en mal, ils font toujours parler d'eux. Et ça serait le fun qu'on parle en bien des Mets un petit peu plus et que ça soit c'est sur des prestations de certains joueurs. T'sais, un lent début de saison, très lent pour Francisco Lindor. Oups, ça va un petit peu mieux. Ouais. Starlin Marte qui se met à frapper. Mais il y a quand même, comme j'ai mentionné, il y a une fragilité à tout ça. Donc, pour l'instant, belle façon là, de créer cette impression-là en jouant du baseball inspirant. Les lanceurs partants ont fait du très, très bon travail. Alors, pourquoi pas y croire pendant un certain nombre de semaines et voir jusqu'à où ça peut nous mener. Mais je parierais pas tout de suite le fait que les Mets pourraient se faufiler en série. Tu comprends? On va être un petit peu plus patient. Ouais. Là. Puis, tu sais, la controverse, là, il reste pas mal de baseball à jouer. Donc, la controverse a du temps de s'installer aussi. Là.
Écoute, je ne sais pas si c'est déjà l'empreinte de David Stern. Tu as parlé des partants, mais le rendement des releveurs, c'est parmi les meilleurs du baseball majeur actuellement. Et rappelle-toi la recette qu'il avait à Milwaukee. Hein? Le personnel de releveur a toujours été au cœur. Bon, on parlait des partants, les trois gros. Il ne faut pas les oublier, là, avec Peralta, avec Burns et Woodruff. Mais on a toujours eu au moins une paire de releveurs dominants avec quelques acteurs de soutien là, qui étaient excellents. Donc, oui, des trois partants, mais en relève à Milwaukee, on était très, très fort également. Aller devant après Semenche, Marc, c'était fini à Milwaukee. Puis je regarde le rendement là, des releveurs. Là. Les quatre premiers releveurs, c'est à Otavino qui a la moyenne de points mérités la plus élevée, tout juste au-dessus de deux. Je me demande si ce n'est pas l'influence de David Stearns qui déjà est en train de se faire sentir.
Ben, absolument, mais je pense que le retour d'Edwin Diaz en est aussi pour quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il a raté toute la saison dernière. Mais tu as raison de mentionner que c'est une courte relève qui est très solide. Et là, lorsque la confiance s'installe à ce niveau-là, c'est tellement payant là, parce que tu sais, à l'attaque, si on est capable de donner cette avance en huitième, j'aurais peut-être pas la septième encore, mais disons la huitième et la neuvième, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a des bonnes chances de fermer les livres. La recette, elle a toujours été bonne. T'sais, lorsque tu as des releveurs en fin de match, t'sais, les fameux matchs d'un point ou de deux points d'écart, Alain, que tu vas gagner, surtout tôt en saison, ils font une grande différence. Alors, c'est une bonne recette. Si tu es capable de l'appliquer, si tu es capable de la faire avec ton équipe, c'est vraiment une bonne manière de solidifier puis de peut-être t'assurer justement que tu n'es pas sur une longue série de défaites avec une excellente courte relève.
Oui, puis ce qui m'inquiète le plus chez les Mets, chez les lanceurs, on pourrait parler des joueurs de position aussi, mais chez les lanceurs, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont en bas de 30 ans parmi les gros joueurs. Là. Il y a José Buteau qui semble avoir en train de trouver sa place, là, mais pour le reste, là, c'est beaucoup de pression. Edwin Diaz a 30 ans. T'as Jorge Lopez, 31. Otavino, Dakeman, au-dessus de 35. Drew Smith a 30 ans. C'est un bon bras, mais écoute, des gars, là, entre 25 et 29, il n'y en a pas en relève présentement. Moi, c'est la partie qui m'inquiète le plus.
Écoute, puis tu pourrais parler aussi d'un gars comme Marte, qui a 35 ans passé. C'est pour ça que je parlais de fragilité tantôt. On aime ce qu'on voit. On est encore au mois d'avril. On les frais et dispo, mais il y a une certaine fragilité chez les Mets. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement partir là sur... Il faut être heureux de ce qui se passe pour eux, mais il faut être un peu patient. Là. On parle pas d'une équipe comme, par exemple, les Orioles de Baltimore où la jeunesse est installée puis que là, on sait qu'on s'en va pour un petit bout.
Oui, on espère chez les Mets, en fait, entourer le Buteau, Beatty et Alvarez. Là. Je pense que c'est les trois, un au monticule des deux autres comme joueur de position. Ben, c'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Est-ce que vous pensez que les Mets de New York vont être capables de tenir le coup? Je vous invite à consulter notre page Facebook, Compte Complet Balado, ou notre site internet comptecomplet.com. On attend vos commentaires. Les Mets qui sont sur une bonne séquence, jouent mieux que prévu. Freine et série, ça a commencé aujourd'hui. Donc, on attend vos commentaires. Marc, je ne sais pas si c'était à la lumière de ce qu'on vit. On va se donner, garder une petite gêne, mais c'est ça.
Ben, je vais te dire une chose, si les Mets jouaient dans la division Ouest, la nationale, ils seraient en première place.
Ouais.
Et ça, je pensais pas dire ça après 20 matchs de la saison régulière. J'aimerais prendre quelques minutes pour remercier notre commanditaire principal, le plan de match, la boutique de baseball à Boucherville. Vous avez besoin d'équipement. J'y suis d'ailleurs présentement. Venez faire un tour, c'est à Boucherville. Cage de frappeurs également. Il y a des cours privés qui se donnent ici. Alors, plan de match à Boucherville. Et je vous rappelle aussi pour nous écouter ou nous voir, la chose la plus facile à faire, c'est d'aller sur notre site internet www.comptecomplet.com et à ce moment-là, vous allez retrouver tous les endroits pour nous suivre.
Bon, on va parler des Blue Jays de Toronto, Marc. Ils viennent de gagner 4 séries de suite. C'est plutôt impressionnant, Marc, ce qu'ils ont réalisé au cours. Bon, après un début de saison qu'on prévoyait un peu difficile compte tenu que c'était sur la route, mais là, on vient d'en enfiler 4 de suite. Il y a eu des bonnes équipes là-dedans au cours de la dernière semaine, des Padres de San Diego et des Yankees de New York. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine-là des Blue Jays?
Oui, bien, effectivement, c'est bien de voir que c'est pas l'affaire d'un ou deux joueurs. C'est vraiment une combinaison où tu as eu la participation. Évidemment, les lanceurs partants font une fois de plus, Alain, un travail remarquable. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Berrios continue cette domination totale en ce début de saison. Il agit vraiment en partant numéro un d'une formation. Et le dernier départ de Kevin Gausman, pas mal plus rassurant. On parle pas beaucoup de Kikuchi, mais mine de rien, ce gars-là donne de bonnes manches à l'équipe aussi, ce qui fait en sorte qu'on est quand même en mesure d'oublier un peu les Manoa de ce monde. Mais moi, le gars que je retiens dans tout ça, c'est Dalton Varsho. Varsho qui semble, encore une fois, sa moine au bâton n'est pas ce qu'elle pourrait peut-être être. Mais défensivement, son jeu global, mais je vais ajouter son jeu en défense, c'est tout à fait exceptionnel, vraiment. Je comprends pas comment ce gars-là n'a pas gagné le Gant d'or l'année dernière. Là, il est en train de démontrer à quel point il peut faire une différence dans un match donné avec des catchs où la probabilité est à peu près de 5% et lui est en mesure de le faire. Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça. Et ce qui est encore peut-être un peu plus encourageant pour les Jays, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est parti encore. Turner a traîné l'équipe en attaque en début de saison. Varsho tente de l'aider. Mais tu sais, Springer, c'est correct, mais tu sais, on sait qu'il est capable d'un petit peu plus. Est-ce que Bichette peut élever son jeu d'un cran aussi? Alors, il y a un certain potentiel, mais je trouve que le dynamisme apporté par Ernie Clement et David Schneider commence à déteindre. Tu vas me dire, écoute, comment que deux gars comme ça... On a l'air d'avoir du fun, ces gars-là, à jouer. Surtout Clement, qui semble être vraiment le gars à l'intérieur de l'abri. Lorsqu'il joue, il a du plaisir. Il a un certain charisme, ce joueur-là. Je vous dis pas que c'est à cause de les deux que les Blue Jays vont apporter le titre de la division, mais je trouve que c'est rafraîchissant de voir ces gars-là jouer. Ils ont obtenu de gros coups sûrs depuis le début de la saison. Puis ça ajoute à la profondeur de l'équipe. Alors, il y a des points positifs. Il y a toujours certaines décisions, parfois, qui nous font réfléchir. Mais en général, dans le cours de la dernière semaine, bien aimé ce que j'ai vu de cette équipe-là.
Marc, vous allez me dire que je gâche le party un peu. On a quand même un différentiel négatif.
Exact.
On est dans la deuxième moitié et à l'attaque et au monticule. Est-ce que tu t'attends à l'amélioration à un moment donné à l'un ou l'autre de ces deux aspects-là? Moi, c'est au monticule que j'aimerais voir une amélioration. Et là, si je le dis au monticule, je pense qu'on est capable d'en donner plus à l'attaque. C'est juste qu'au monticule, et je sais que c'est bien, Gausman va peut-être probablement être un peu meilleur. Il vient plomber un peu le rendement global des lanceurs partant parce que pour le reste, on n'a absolument rien à dire. En relève, ça n'a pas été parfait. C'est que l'an passé, ce sont les lanceurs qui ont transporté cette équipe-là. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Il me semble qu'il y aurait... C'est fragile un peu de ce côté-là. Va falloir que... Bon, le retour de Romano va faire du bien, je pense. Bref, et Swanson aussi, s'il revient au même niveau que l'année passée, évidemment, dans les deux cas. Moi, c'est l'aspect sur lequel je m'attarde un petit peu plus.
Ben, écoute, Alain, c'est clair que l'attaque doit en donner plus parce que, tu sais, les Blue Jays, ils ont habitué dans les dernières années, là, je parle des années de Bautista, puis Encarnacion, puis Donaldson, à frapper des circuits, des bombes, puis bon. Puis là, Vlad Guerrero qui venait se joindre, puis il y avait encore des Teoscar Hernandez avec l'équipe. Mais ce n'est plus une équipe à coup de circuit. Ce n'est plus une équipe qui va gagner à coup de circuit. C'est une équipe qui peut provoquer des choses. Le problème, c'est que la direction ne semble pas le voir. C'est-à-dire qu'on ne vole pas beaucoup de buts. On n'est pas créatif en attaque, mais on devrait l'être. C'est-à-dire que tu vois Vlad, Et Vlad, on a fait le débat sur Vlad. Là. C'est que c'est un excellent joueur, mais ce n'est pas un frappeur de 40 coups de circuit et 125 points produits. C'est un bon frappeur qui va en frapper peut-être 25, peut-être en espérant qu'il va se rendre à 30. Alors, il faudrait trouver des moyens de créer des choses en attaque. Que ce soit, tu sais, Alain, tu vas me dire que ça n'existe plus, des courriers frappes ou très peu. Mais je pense que c'est une équipe qui devrait agir un peu plus dans ce sens-là. Tu sais, Varsho est un bon. Il frappe une coupe de circuit, mais tu sais, il y a de la vitesse là-dedans. Pourquoi qu'on n'utilise pas un peu ça? Tu sais, Kiermaier, un petit peu de misère en attaque. Force-le à faire des frappés courts, par exemple, mettre une balle en jeu, aller chercher un 90 pieds de plus. Moi, je pense que c'est une équipe qui devrait agir un peu plus de la sorte. De temps en temps, on va frapper des longues balles, j'ai pas de problème. Mais ce n'est pas une équipe qui doit se fier uniquement à ça. Puis je trouve parfois qu'on agit de cette manière-là dans la prise de décision. Donc, c'est pour ça, moi, que j'avais dit en début d'année, je mettrais Springer, moi, plus cinquième frappeur. Je pense, puis je le pense encore. Je pense que des gars comme Clement ou Bijou ou même David Schneider, de temps en temps, peuvent frapper premier. Mais là, si tu descends par la suite, ça crée un cœur de formation qui est, selon moi, un petit peu plus solide. Je pourrais faire le même débat avec les Astros puis Ozzie Altuve. Moi, je pense qu'Altuve ne devrait pas frapper premier, devrait être un petit peu dans le cœur de formation. Surtout que des gars comme Abreu vont pas bien du tout. Mais ceci étant dit, c'est là que je pense que les Blue Jays devrait trouver un moyen d'être plus créatif. Tu l'as dit, on n'a pas marqué une... Tu sais, il faut soutenir nos lanceurs partants. Il faut leur donner parfois de l'air un peu. Il faut qu'ils respirent un peu. Parce que là, tu as toujours l'impression qu'il ne faut pas en donner trop, là, parce que ça devient un peu plus difficile. Alors, les Blue Jays sont bien gardés au monticule, mais il faut que l'attaque supporte davantage. Puis arrêtons de toujours demander à Vlad de tout... À lui-même, on vient de parler là, tout à l'heure d'un Bobby Witt Jr. Oui, il peut faire un travail exceptionnel, mais tu ne peux pas transporter l'équipe toujours avec tes propres performances. Donc, j'aimerais voir plus de créativité en attaque du côté des Blue Jays, de créer des... Puis, tu sais, je ne parle pas d'amorti, là, mais je parle de courir un petit peu plus, de créer un peu d'énergie, de passer du premier au troisième. On est une équipe qui est un peu, outre Varsho et peut-être Kiermaier, je trouve pas qu'on est une équipe hyper agressive sur les sentiers non plus. Donc, mais il y a moyen de le faire. Il y a certainement moyen d'être un peu plus créatif en attaque.
Oui, mais Marc, il y a une chose. Guerrero et Bichette finiront pas l'année avec une moyenne de puissance en bas de 400, parce que c'est le cas présentement. Là. Je veux dire, non, bon, peut-être que dans ton cas, tu t'attends pas à ce qu'on Guerrero frappe une trentaine de circuits, peut-être même pas Bichette, mais pas avec une moyenne de puissance en bas de 400. Si ces deux gars-là continuent dans cette lignée-là, même si leur MPP+, surtout dans le cas de Guerrero, est positif, ça marchera pas. Là. C'est 3,69. Là,
je comprends. Mais justement, Alain, pourquoi attendre que ces gars-là se réveillent? On a des matchs à jouer, on a des matchs à gagner, puis on en gagne, là, on gagne des séries. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on attend que quelqu'un débloque. Mais on en met des gars sur les buts, là. On est capable de faire des choses. Alors, c'est juste de ne pas être trop passif en attaque, de tenter de créer des choses, justement. Puis à un moment donné, ben il va y avoir un réveil de la puissance de Vlad puis de Bichette. Tu sais, il va commencer à faire plus chaud, la balle va voyager un petit peu plus. Tu vas me dire c'est bon pour toutes les équipes, mais c'est vrai aussi pour les frappeurs des Blue Jays de Toronto. Donc, dans ce cas-ci, moi, ça. C'est ça. C'est pour ça que j'aime pas ça des équipes qui sont passives. On va attendre que les gars débloquent. Alors, on se croise les doigts et on attend. Alors que je pense qu'on est capable de modifier notre style, même si c'est pas là, le scénario écrit d'avance avant les matchs. Là. Il faut toujours que j'ajoute mon petit grain de sel là-dessus. Mais tu comprends, c'est d'arriver puis de parler aux joueurs aussi. Écoute, les gars, on crée pas de puissance. Ben, on va créer d'autres choses aujourd'hui. On va essayer. On essaie-tu des choses? Ouais. C'est là que j'aimerais. Tu sais, on est. Passif est le terme que j'utilise souvent là-dessus. On se croise les bras puis on attend que quelque chose se produise alors que je pense qu'on serait capable d'en créer.
Oui, écoute, c'est contre tendance. Ça, je pense que tu sais, tu es au courant de ça.
Ben oui, mais j'ai toujours été contre ça. Puis je lâcherai jamais le morceau. Je vois ce qui se passe dans le baseball actuellement, Alain. Puis tu me feras pas changer d'idée à ce niveau-là. Puis juste ajouter un autre point, c'est j'ai bien aimé le travail de Rodriguez au Monticule, soit dit en passant. Il a l'air d'un lanceur professionnel. Il vient ajouter une belle profondeur. J'aime beaucoup sa balle glissante. Donc, à lui, évidemment, de s'installer tranquillement, pas vite, mais disons que les premières impressions sont bonnes.
Oui. Deux séries à venir pour les Blue Jays. 4 matchs contre Kansas City, ça va être intéressant. Et 3 contre les Dodgers, retour à domicile. Bon, c'est le temps maintenant de vous présenter la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de Card Trade Union Depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Et cette semaine, on porte notre attention sur un des meilleurs receveurs de l'histoire du baseball, Johnny Bench. C'est sa carte OPG de 1983. C'est la carte numéro 60. Sa dernière saison en tant que joueur actif, il n'était plus receveur à ce moment-là. D'ailleurs, sa position, c'est comme troisième but sur cette carte. Aussi, dans la série Baseball Bunch produite par la MLB, on le voit jouer un rôle d'instructeur d'une équipe de jeunes. Ça mettait en vedette aussi Tommy Lasorda et le San Diego Chicken, qui était la mascotte. En fait, c'était une des premières, sinon la première mascotte dans le baseball majeur avec les Padres de San Diego. Johnny Bench, Marc, tu ne l'as pas connu, je pense, à son apogée, ou tu n'étais pas vieux quand il était au sommet de sa carrière. Deux fois le joueur par excellence dans la Ligue nationale, 1970, 1972, de nombreuses fois dans le match des Étoiles. En fait, quand Gary Carter est arrivé dans le baseball majeur, le modèle qu'on voulait imiter, c'était celui de Johnny Bench.
Puis écoute, c'est exactement ça, Alain, parce qu'effectivement, moi, je me rappelle pas Johnny Bench lorsqu'il était à son meilleur, mais fin des années 70, il était encore parmi, évidemment, les meilleurs receveurs. Puis je trouvais ça frustrant que Carter était toujours derrière, tu sais, dans le sens que ce soit pour le vote pour le match des étoiles ou pour le joueur par excellence ou le gant d'or ou peu importe. T'avais toujours l'impression que Bench avait toujours cette longueur d'avance-là. Puis moi, je comprenais pas ça. Je disais, Gary Carter, c'est Gary Carter, c'est lui le meilleur. Puis alors, mes premières impressions de Johnny Bench, c'est pas si bon que ça, mais tu comprends, j'ai commencé à suivre vraiment davantage de baseball à fin des années 70, début des années 80. Donc, c'est pour ça que, par la suite, j'ai bien réalisé à quel point ce gars-là avait une carrière tout à fait exceptionnelle. Puis, c'est un joueur unique. Mais mes premières impressions, c'était, Carter est bien meilleur que lui.
Oui, écoute, 3 fois, il a mené la Ligue nationale pour les points produits. Il jouait beaucoup, raison pour laquelle, à 35 ans, c'était terminé pour Johnny Bench. Il n'était plus en mesure de jouer comme receveur. Ses jambes l'avaient laissé tomber. Recrue de l'année et, ça n'a pas été une surprise qu'il ait été nommé au Temple de la renommée à sa première occasion. Johnny Bench qui avait un choix de deuxième tour. Il y a quelques équipes qui l'avaient échappé cette année-là. C'était en 1965. C'était la toute première année au cours de laquelle on pouvait repêcher des joueurs. C'est la première année du repêchage. Donc, à ce moment-là, ça veut dire, Marc, qu'il y avait pas mal de joueurs des universités et des écoles secondaires qui étaient disponibles. Personne n'avait été repêché avant. Ce qui explique parfois pourquoi peut-être que Johnny Bench a glissé au deuxième tour. Tu imagines aujourd'hui un repêchage, Marc, où il n'y avait pas eu de repêchage auparavant? Il y a peut-être des joueurs d'Atlanta qui auraient glissé également.
Assurément. Puis encore aujourd'hui, on sait que c'est même pas une science exacte.
Non. Donc, Johnny Bench cette semaine, la carte de la semaine.
Au cours des prochaines semaines, nous avons un nouveau segment avec Baseball Québec. Baseball Québec, la fédération, je vous dirais, la plus... avec le plus d'énergie au Canada, certes. Et Baseball Québec, pourquoi? On va vous parler au cours des prochaines semaines de l'Académie de baseball du Canada, des jeunes joueurs d'avenir. On sait que le repêchage s'en vient. Est-ce qu'il y a des Québécois qui vont pouvoir être repêchés? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont présentement dans le baseball professionnel affilié? Vous savez qu'il y a même maintenant un ABC féminin, donc l'équipe féminine. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, on va vous renseigner au fil des prochaines semaines sur ce qui se passe avec la Fédération de baseball du Québec et évidemment ses nombreux joueurs et joueuses et joueurs, entraîneurs également. Donc, ce sera un segment fort intéressant. Je vous rappelle aussi que Baseball Québec, cette année, offre un moitié-moitié. Donc, c'est un moitié-moitié. Vous avez vu dans les stades de baseball, souvent, c'est très, très populaire. Bien, Baseball Québec le fait maintenant cette année tout au long de la saison. Donc, c'est un moitié-moitié qui va aller jusqu'à la fin de l'été. Et il y aura un tirage, donc, à la fin de la saison. Pour plus de renseignements, bien, vous allez sur le site de Baseball Québec à ce moment-là et vous allez pouvoir vous diriger directement vers l'endroit où participer à ce moitié-moitié-là. Donc, à suivre au cours des prochaines semaines ce segment de Baseball Québec.
Marc, je veux qu'on s'arrête sur les premières impressions qui peuvent être trompeuses un peu. Et il y a un joueur en particulier sur lequel je mets l'accent et c'est un jeune avec les Tigers de Détroit, Wensil Pérez. C'est un Dominicain, c'est qu'à Détroit, là, tout le monde... tout le monde veut avoir son morceau de Wensil Pérez. C'est un Dominicain qui est un joueur d'avant-champ qu'on utilise cette année pour la première fois régulièrement comme voltigeur. Il a été rappelé après un début de saison à Toledo, qui est la principale filiale des Tigers de Détroit. Puis là, il frappe pour 300, il court partout, il est spectaculaire, il est rapide. Marc, c'est pas un prospect de premier plan. On en a eu des joueurs comme ça, Marc, au fil des années, là. Je pense à William Astudillo avec les Twins du Minnesota. Germaine Mercedes qui avait créé qui était une sensation à son arrivée. Il faut faire attention, Marc, quand on arrive comme ça. Bon, il frappe pour 300 présentement, comme je dis. Il a un style de jeu qui plaît aux gens. Les Tigers vont bien, donc tu comprends qu'il attire l'attention. Mais c'est ça. Dans le cas de Perrin, je pense, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est mieux d'en profiter pendant que ça passe.
T'as raison, mais je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que le baseball est probablement le sport à développement tardif, où ça paraît le plus. C'est-à-dire que je trouve parfois qu'on a un problème avec le développement du baseball. Là, je parle partout. Puis, tu sais, on pourra en parler avec Alex Agostino éventuellement, ouais. Mais... Et souvent, là, à 18-19 ans, puis, on a parlé de parfois un joueur dominicain, là, Blanco, par exemple, qui est arrivé de la République dominicaine à 22 ans, puis on dit que c'est très, très tard. Mais 22 ans, là, on s'entend-tu que c'est jeune? Alors, ça se peut qu'un joueur se développe plus tard. Ça se peut qu'un joueur n'a pas eu les opportunités que d'autres ont eues. Ça se peut que pour toutes sortes de raisons, il s'est pas développé à 20-21 comme on pensait, mais que soudainement... Tout a cliqué à 23, 24, 25 ans. Ça se peut-tu, ça? Puis je trouve que parfois, on est vite sur la gâchette de dire non, lui, ça marchera pas. Puis là, on l'envoie au 3A, puis il va bien, mais pendant l'âge de 24, 25, 26, il domine au niveau 3A. C'est peut-être un joueur 4A, mais qui n'a jamais donc sa chance de se faire valoir. Donc, tu as raison, Alain, de mentionner qu'il y en a beaucoup de joueurs qui arrivent puis qui partent parce que vous savez, la moyenne d'une carrière dans le baseball majeur, c'est 4 ans. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui arrivent puis ça dure 2-3 mois puis c'est terminé pour toutes sortes de raisons. Mais ça peut arriver aussi de l'autre côté où un joueur se développe sur le tard. Il y a un déclic qui se fait. Il y a une chance unique. Il rencontre un coéquipier qui lui permet de dire « Hey, écoute, pense à ci, pense à ça, fais ça différemment. » Puis ça se peut. Puis des fois, là, peut-être que c'est moi qui a trop une belle pensée, mais ça se peut-tu qu'il lui arrive? Parce qu'il n'est pas vieux, là. Il a quel âge, Wensil Pérez? Là? Il a 24, 25 ans?
Oui, 24.
24 ans, donc, tu comprends? Alors, je suis plus du côté de dire, bien, peut-être qu'enfin, il a sa chance, il y a quelque chose qui a débloqué, puis l'échantillon est très court, là, j'en conviens. Mais j'ose penser que ça pourrait développer à quelque chose de plus intéressant à long terme qu'à court terme. Tu vas me dire qu'il y a pas mal d'exemples qu'il y en a que c'était à court terme, je comprends très bien ça. Mais tu sais, j'ai quand même toujours l'espérance. Moi, quand je vois un joueur, t'as un uniforme sur le dos, soudainement, tu sais que ça va bien, bien, profite-en parce que ça peut être justement l'unique chance. Tu sais, tu viens de le dire, là, la question était est-ce que ça peut se poursuivre, cette affaire-là? J'ose espérer que ça pourrait... J'y souhaite, évidemment.
Oui, bien écoute, à Détroit, c'est Akil Baddoo là, qui avait été une sensation en début de saison, puis une flamme qui s'est éteinte pas longtemps après.
Bien écoute, puis Alain, honnêtement, on pourrait en nommer pas mal, là, je veux dire, t'as raison, on dirait Akil Baddoo, on est un autre. Mais ouais. Pensez-y, là, une carrière, c'est 4 ans. Ouais. Alors là, si vous mettez tous les excellents joueurs qui sont là pendant 10, 12, 13, même 15 ans, puis ça veut dire qu'il y en a pas mal qui sont là, qui sont là pas longtemps. Mais je veux, j'aime quand même le fait que je trouve que parfois, on étiquette des joueurs très rapidement en disant « non, ça marchera pas », alors que tu as 24 ans. 24 ans, c'est quand même, tu pourrais avoir une carrière de 10 ans si jamais tu vas chercher la constance nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on abandonne souvent pour des joueurs qui pourraient en donner beaucoup plus. Parce que vous savez, le baseball, t'atteins, selon moi, là, l'âge là, parfait là, pour atteindre bon physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez là au niveau des habiletés. C'est autour de 27, 28 ans. Là. Alors, pourquoi qu'à 24, on dit non, ça ne marchera peut-être pas là? Pour ça que des fois, je suis pas sûr qu'on va toujours dans la bonne direction, mais bon, ça, c'est une opinion qui est très personnelle.
Marc, il y a deux performances qui ont attiré ton attention au cours de la dernière semaine. Je vais commencer avec Tyler Alexander. C'est un projet récupéré des Rays de Tampa. Une carrière, bon, c'est pas très spectaculaire avec Détroit depuis 2019. Il a lancé contre les Yankees de New York dans la série du dernier week-end au Yankee Stadium. Et avec une rapide, gros maximum 90 000 à l'heure, il a mystifié les frappeurs des Yankees. Je viens de dire, les Yankees ont des difficultés au bâton. C'est pas là qu'est le point. C'est des frappeurs du baseball majeur. Et même Juan Soto n'a pas été capable de faire quoi que ce soit contre Tyler Alexander. Écoute, c'est une des performances. Pourtant, il y en a eu des bonnes là, qui t'a le plus impressionné, en tout cas au cours de la dernière semaine.
Bien, c'est que, en fait, ça m'a impressionné. Puis ça m'a aussi. Tu sais. Je trouve ça le fun. On parle tellement de puissance encore, puis des blessures, puis le fait que si tu lances 90 000 à l'heure, tu t'en vas nulle part, t'as pas de chance. On vient de parler là, du développement de joueurs. Là. Puis lui, il arrive, tu viens de mentionner, là, je pense que sa meilleure rapide était autour de 90, effectivement. Mais des lanceurs de finesse, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, puis moi, tu regardes ça, puis je... Comme frappeur, le frappeur doit toujours s'ajuster au lanceur. C'est pas l'inverse, là. C'est le lanceur qui... C'est lui qui a la base. C'est lui qui dicte tout. Puis écoute, aucun frappeur des Yankees était capable, tu l'as dit, de s'adapter ou de s'ajuster à la situation. Fait que moi, la finesse, j'aime ça. J'aime la puissance, là. C'est pas que je suis contre. Mais je pense qu'une bonne équipe pourrait, tu sais, d'avoir justement un mix de tout ça. Tu sais, des lanceurs partant avec finesse. Puis je sais qu'avec finesse, le problème, c'est que ta marge d'erreur est pratiquement nulle. Mais lorsque tu l'as, lorsque tu sens chacun de tes tirs... Tu sais, Tanner Houck, là, ben, il lance 95. Alors là, on est peut-être dans un autre niveau. Mais allez, des matchs complets de moins de 100 tirs, c'était beau à voir. Il a utilisé sa glissante de façon magistrale. Ouais. Là, tu vas me dire, la glissante, ça peut faire des blessures aussi au coude. Absolument. Mais ça reste que c'est pas uniquement de la puissance. Et c'est là que je trouve que c'est là que les lanceurs... En fait, ce que je devrais dire, c'est que là, les équipes devraient aller. Je dirais pas les lanceurs, parce que si quelqu'un lance fort, tu diras pas de lancer moins fort. Mais si quelqu'un a un bon lanceur, qui a un bon physique, mais qui est une rapide à 90 000 à l'heure, mais qui maîtrise tous ses tirs, qui a un changement de vitesse qui est solide, il faut que ces gars-là soient capables de se faire valoir dans le baseball. Puis ce qu'Alexander a fait, c'est exactement ce que j'aime voir d'un gars qui lance. C'est pas un garrocheur. Il lance, il est solide, il comprend la situation, il voit que les frappeurs des Yankees n'étaient pas capables sur certains tirs. Il en a abusé. Tu sais, le fameux jeu d'échecs ou le jeu du chat et de la souris, lui, il l'a gagné à plate couture dans ce départ-là. Alors, pour moi, c'est un beau spectacle.
Oui. Puis Tanner Houck a réussi un Maddox en 1h49. Marc, le cadran ne l'a pas trop dérangé, lui. En tout cas, il a appliqué ce qu'on disait dans les années 70, Marc, c'est-à-dire travaille rapidement et aide du rythme. Un Maddox, en passant, c'est un match complet, blanchissage en bas de 100 tirs.
Puis là, c'était en bas de 2 heures. Fait que, ça, c'était fascinant. Et le rythme, t'as tellement raison de mentionner le rythme. C'est aussi bon pour le lanceur que le frappeur, mais ça paraît davantage lorsque le lanceur... Moi, vous savez, un lanceur, là, qui reçoit la balle de son receveur, puis tu sais, qui s'installe, puis il te regarde en me disant « Installe-toi, le frappeur, c'est sûr que je vais t'avoir. » Tu sais, cette espèce de langage corporel-là, mais Tanner Houck, il l'avait. Lui, là, que ce soit une balle, aucune. Enfin, il a pris les devants constamment, mais s'il tirait de l'arrière, là, ça le dérangeait même pas parce qu'il allait envoyer une glissante au coin extérieur, qu'elle allait revenir puis que le frappeur abandonne. Tu sais, l'attitude venait avec aussi. Puis moi, je suis impressionné par les partants des Red Sox de Boston, mais ce que Tanner Houck a fait. Écoute, 1h50, en fait 1h49 pour être précis, dans un match impliquant les Red Sox de Boston, il faut le faire, là. Faut le faire.
On n'aurait pas fait ça il y a 2 ans, ça c'est clair. Bon, j'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous pour nos 3 prochains matchs et on aura un spécial de Québécois cette semaine, puisque ce lundi, on aura l'occasion de voir les Twins du Minnesota et d'Édouard Julien. Édouard Julien, en passant, il est deuxième au sein de l'équipe, malgré ses ennuis, deuxième au sein de l'équipe pour le WAR. Il est premier pour les circuits et premier pour les buts sur balle. Donc, il y a tout lieu de croire que ça va s'améliorer au point de, point de vue de la moyenne au bâton. Il y a juste Ryan Jeffers qui est meilleur que lui. Donc, les Twins vont accueillir les White Sox de Chicago. 19h30 que le match va être présenté ce lundi, c'est-à-dire. Mercredi, on verra les Ace d'Oakland et Abraham Toro au Yankee Stadium à compter de 19h. Et dimanche, on parlait des Red Sox de Boston. On les verra à domicile et ce sera contre les Cubs de Chicago. À compter, comme d'habitude, le dimanche à 19h. J'espère que cela vous a plu. On se souhaite une excellente semaine de baseball. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.